C'est aujourd'hui le début du Téléthon pour apporter des fonds à la recherche contre les myopathies et contre les maladies génétiques rares. Emmanuel Palmieri, vous habitez Bourg-en-Bresse et vous avez un garçon de 18 ans, lui-même myopathe, Victor. Une émission comme le Téléthon, est-ce que c'est important pour vous ?
Alors oui, bonjour. Donc effectivement, les émissions comme le Téléthon sont extrêmement importantes pour pouvoir récolter des fonds et surtout permettre à la recherche d'avancer et faire parler de ces maladies rares et qui ont, pour lesquelles on a des parcours très difficiles.
Est-ce que depuis que vous êtes personnellement touché, vous avez vu en 18 ans des évolutions pour les soins de votre fils qu'on peut imputer à l'émission ?
Oui, j'ai vu des évolutions déjà dans les aides apportées financièrement et puis le soutien par rapport aux lois, puisque le Téléthon fait aussi partie de ces associations qui aide à faire avancer les lois en lien avec le handicap en général.
Et puis peut-être l'image des malades aussi, ça aussi, ça a pu évoluer grâce à l'émission.
Oui, tout à fait, l'image, c'est-à-dire que auparavant, le handicap était quelque chose de plutôt caché. Et maintenant, grâce aux émissions, grâce aux vues qu'il y a à la télé et dans les manifestations que l'on voit, effectivement, le handicap n'est plus invisible et le regard de la société change petit à petit, oui.
On va parler de Victor. Victor, il a donc 18 ans aujourd'hui. Comment il va ?
Il va bien, il grandit, sa maladie évolue malheureusement aussi. Donc, il faut continuer la mobilisation de toutes sortes, mais il va bien.
De quoi souffre-t-il exactement ?
Alors, il a une maladie, une myopathie d'origine mitochondriale non étiquetée, c'est-à-dire que malgré les recherches sur son patrimoine génétique et les recherches en général, on n'a encore pas réussi à mettre de nom sur cette maladie. On sait de quel ordre elle est, ça touche les muscles, c'est d'origine mitochondriale, mais il n'y a pas de nom, elle n'a pas été associée à une maladie précisément nommée.
Oui, parce que vous avez appris comment sa maladie ?
Alors, je l'ai appris en voyant mon fils évoluer, c'est-à-dire qu'il a marché à 11 mois et au lieu de progresser, sa marche petit à petit était de moins en moins bonne. Et j'ai alerté plusieurs fois les médecins lors de visites classiques. Hein, les médecins généralistes n'étant pas suffisamment formés ne voyaient rien d'anormal, ils disaient d'attendre. Mais les mois passant, la marche de Victor était de pire en pire. Et mon inquiétude également. Donc, à un moment donné, face à l'inaction des professionnels, j'ai fait la démarche d'aller dans un hôpital pour voir des médecins qui avaient une spécialité plus en lien avec les myopathies. On a fait des examens et ensuite tout s'est enchaîné. Mais c'est mon parcours en tant que parent, puisque je n'ai pas été aidée par les professionnels au départ.
Ça a été un coup de massue quand vous avez obtenu le verdict ou alors, bon, quelque part, vous vous êtes dit « maintenant, je sais ».
Alors, ça a été un coup de massue, oui, et à la fois non. Oui, parce qu'on a toujours l'espoir de se tromper, mais non, puisque je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Après, moi, j'ai longtemps travaillé dans le secteur du handicap auprès d'un public polyhandicapé adulte. Donc, j'avais peut-être une acuité plus fine par rapport à un parent lambda. Mais effectivement, ça a permis de se dire, comme vous le dites, oui, il y a un verdict, on sait maintenant.
Parce que là, ça fait combien de temps maintenant que Victor est diagnostiqué myopathe ? Depuis qu'il a quoi ? Depuis qu'il a 2 ans ?
Depuis qu'il a 18 mois.
Là, s'il y a des parents qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre la myopathie ou la grave maladie de leur enfant, quels conseils pourriez-vous leur donner ?
Alors, les conseils que je donnerais seraient de se rapprocher le plus tôt possible d'associations spécialisées qui vont aider justement à se rapprocher de professionnels adaptés. Parce que les médecins généralistes sont très compétents dans leur domaine, mais ne connaissent pas tout non plus, ils ne peuvent pas. Donc, aller vers des CESAD, aller vers les hôpitaux directement, de manière à pouvoir rentrer tout de suite dans un parcours spécialisé. au niveau de la recherche des maladies.
Au quotidien, aujourd'hui, comment vit Victor ? Est-ce qu'il a conscience d'ailleurs de son état ?
Alors, Victor est conscient depuis très jeune de son état. Et c'est un problème pour lui. Il a toujours voulu être comme les autres. Il a petit à petit, justement, grâce au suivi avec des psychologues, des psychomotriciennes, des ergothérapeutes et des kinés, il a petit à petit accepté sa condition. Il rêve d'être comme tout le monde. Et il rêve que l'on puisse, il rêve de guérir.
Il a des amis donc, autrement, Victor ? Il est allé à l'école un peu quand même ou pas ?
Son parcours scolaire a été d'abord une inclusion dans une école classique. Ça a été très difficile parce que j'ai dû me battre face à l'éducation nationale, face à un directeur qui était dans le refus justement d'accueillir un enfant spécial. C'était très difficile, très très difficile. Par la suite, on a réussi à avoir une place dans une classe ULIS. Et là, tout a changé. L'enseignement était spécialisé. Donc, ça lui a permis justement de pouvoir progresser dans les apprentissages à son rythme et de faire des acquis en termes de scolarité. Puis après, il n'avait plus l'âge pour être en école primaire. Donc, il a intégré un CEM, c'est un centre d'éducation motrice où toutes les prises en charge kiné, ergo, orthophonie sont incluses dans le CEM. Et il grandit, il a acquis de la maturité, il a acquis des compétences, des savoir-faire. 16 ans étant l'âge où l'école n'est plus obligatoire, donc il a continué dans ce CEM, mais il n'avait plus classe. Il a intégré un dispositif d'atelier où ils acquièrent des compétences qui sont plus en lien avec le monde professionnel. Et maintenant, son projet est d'intégrer un ESAT. Alors, les places sont chères, mais son projet est d'intégrer un ESAT. Et pourquoi pas, dans l'avenir, être dans le milieu ordinaire, on n'en sait rien encore.
Voilà, en tout cas, lui, il espère, vous, vous espérez aussi. Et après tout, tout est possible encore.
Aujourd'hui, au regard de ses difficultés et de ses progrès, tout est possible.
Et il a des amis, alors Victor, il a beaucoup de soutien autour de lui. Alors bien sûr sa maman, bien sûr sa famille, mais il y a également plein de proches qui gravitent autour de lui.
Oui, énormément. Alors sa maman, son papa aussi, et la famille de manière plus générale. On soutient tous Victor. Et Victor a des amis, c'est un garçon qui est très sociable. Donc lorsqu'il était en milieu ordinaire, il avait des amis ordinaires. Et maintenant qu'il a intégré un établissement spécialisé, il a également des amis. Il se fait des amis très très facilement, Victor.
Et vous, on va parler aussi de la maman, donc de vous, Emmanuel Palmieri. Vous avez continué malgré tout à travailler. Certes, vous vous êtes battu, ça a été le combat de votre vie, mais vous avez continué donc à travailler puisqu'aujourd'hui, vous avez un institut à Bourg-en-Bresse.
C'est ça. Alors, j'ai travaillé pendant 17 ans dans le secteur du handicap, comme je l'ai dit précédemment, auprès d'adultes polyhandicapés. J'ai également travaillé par la suite auprès d'un public enfant, avec des enfants autistes et des enfants en situation de handicap. Et puis, par la suite, j'ai eu besoin de passer la main, de laisser aux générations suivantes cette charge, parce que c'est une charge de travailler dans ces secteurs-là. Et ayant envie quand même de m'occuper des autres, j'ai fait le choix de devenir esthéticienne et j'ai deux emplois en fait. J'ai créé mon entreprise pour faire de l'esthétique auprès de personnes dépendantes, donc des personnes qui ne peuvent pas se rendre en institut, donc des personnes âgées, des personnes handicapées en EHPAD ou à domicile. Et également, je travaille pour une grande marque en magasin et en institut.
Et puis, bien sûr, pendant toute votre vie, continuez à aider Victor au quotidien, bien sûr. Vous avez été là tout le temps.
Exactement, tout le temps, et je serai tout le temps là.
Mais c'est important de continuer à travailler aussi, c'est ce que vous tenez à dire.
Alors, c'est important de continuer à travailler parce que déjà, c'est plus sain pour l'esprit. Et puis, il faut gagner sa vie parce qu'on ne peut pas vivre exclusivement des aides de l'État qui ont les mérites d'être présentes, mais qui ne suffisent pas à vivre.
Il y a également un combat dans lequel vous vous êtes engagé, c'est le renouvellement du fauteuil roulant de votre fils. Il faut quand même revenir avant tout, avant de parler du prochain fauteuil roulant l'année prochaine, sur cette magnifique histoire. lorsque vous avez lancé il y a 4 ans une cagnotte en ligne et il y a eu quelqu'un qui a tenu à rester anonyme et qui a financé le fauteuil roulant de votre fils.
Effectivement, on a eu l'immense joie de rencontrer une personne qui a fait un don.
Est-ce que vous le connaissez, vous le connaissez alors ?
Je l'ai rencontré, ouais, c'est un monsieur avec un cœur énorme, d'une gentillesse extraordinaire. Et en fait, on ne finançait pas que le fauteuil roulant, on finançait surtout un élévateur comme un ascenseur pour accéder au logement, puisque j'habite dans une maison avec un étage. Et c'était là le plus gros budget. Donc, il nous a donné un gros, gros chèque. Je le remercie encore aujourd'hui, 4 ans après.
Cet homme-là, pourquoi a-t-il souhaité ? Il vous a dit pourquoi il souhaitait absolument de rester anonyme ?
Alors, il ne me l'a pas expressément dit, mais s'il donnait son nom, il serait peut-être harcelé par de nombreuses demandes, puisque nombreux sont les gens qui sont dans le besoin, puisque les remboursements n'étant pas suffisants, ça lui évite d'être harcelé et il choisit quelles sont les personnes à qui il va donner.
Donc là, Emmanuel Palmieri, il y a une évolution depuis le 1er décembre, depuis lundi, puisque tous les fauteuils roulants sont désormais remboursés intégralement grâce à la réforme de la prise en charge qui est entrée en place. Alors pour vous, bien sûr, ça doit être une très bonne nouvelle, mais je vous sens un petit peu méfiante quand même.
Exactement, parce que vous avez dit tous les fauteuils roulants. Or, ce ne sont pas tous les fauteuils roulants. Il y a une nomenclature, c'est-à-dire il y a une liste de fauteuils roulants qui sont pris en charge. De nombreux fauteuils roulants qui étaient adaptés à certaines pathologies ont disparu de cette liste. Ensuite, des fauteuils roulants, leurs prix vont être ajustés puisqu'il y a des fourchettes de prix de remboursement. Donc, un fauteuil roulant qui était plutôt basique, qui coûtait une certaine somme, risque de voir son prix augmenter pour ne pas dépasser la fourchette, mais les qualités du fauteuil ne vont pas augmenter. Il va se trouver des personnes avec des besoins spécifiques qui vont voir des fauteuils plus pris en charge. Les fabricants vont voir peut-être leur chiffre d'affaires augmenter si les fauteuils pas chers deviennent un peu plus chers.
Donc là, vous allez surveiller tout ça, d'autant plus que vous devez donc remplacer le fauteuil roulant de votre fils l'année prochaine, je crois, parce que, bien sûr, il grandit, il change physiquement.
Et oui, il a grandi, forcément. Maintenant qu'il a 18 ans, il ne fait plus la taille et le gabarit d'un garçon de 14 ans. Et puis le fauteuil s'use. Donc là, on est en train de prendre les mesures, recueillir les besoins de Victor. Il y aura certainement des options qui seront remboursées ou pas. Après, pour les options, effectivement, il va falloir faire auprès de la Sécurité sociale des demandes de prise en charge spécifiques. Et on verra si la Sécurité sociale accepte ou pas.
À suivre prochainement, en attendant.
Exactement.
Eh ben voilà, c'est le Téléthon là, pendant tout ce week-end, 36-37. Et puis on passe un grand bonjour également à votre fils Victor. Il a quoi de prévu là pendant le Téléthon ? C'est quelque chose qui l'intéresse aussi ?
Alors c'est quelque chose qui l'intéresse et il suit à la télé. Après, nous, on n'a malheureusement pas beau temps en ce moment à Bourg-en-Bresse, donc il ne va peut-être pas forcément... sortir et puis on a des anniversaires de prévus, donc il va plus passer du temps avec sa famille qui lui est très très chère et voilà.
Voilà, parce que bon, c'est un garçon handicapé de 18 ans, mais au fond, c'est un garçon comme les autres.
C'est un garçon comme les autres, voilà.